1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, testing. 1, 2, 1, 2. C'est dans la chambre avec Talbot. Comment allez-vous? 1, 2, 3, 4. 1. Ah, voilà, on a retrouvé notre écho. On l'avait laissé dehors. Merci, Yann, d'avoir rentré.
Ça me fait plaisir.
Comment ça va, mon Yann Richards?
Ça va très bien, mon Denis, et toi?
Ah, ça va bien. On a de la visite ce soir. Les gens de Cardboard Utopia qui sont ici, qui viendront nous parler de leur nouvelle création. André, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci.
Content que tu te sois rendu. Hein?
En un morceau.
Oui, on a pris une belle marche. Jason, welcome to the studios.
Merci. Thank you.
Hey, ça. Can't wait. Have you played the game, Yann?
Yes.
T'as joué, ouais?
Oui, oui, okay. J'ai joué. Excuse-moi, il parle en anglais.
Bah, c'est correct.
On va dire le bilingual guy.
On va saluer les gens qui sont avec nous ce soir dans le chat. 1, 2, 3, 4. Hey, l'écho est venu, il est parti à part. Salut à Varmat qui est là. Il y a Thierry 1961 qui est avec nous également. Bonsoir à Bencho Sly. Lozon, Jim de son prénom, est là également. Tiguidou, c'est un rendez-vous. Yes, le Tiguidou est en place. Il y a la chance qu'il vienne s'inscrire, la chance 01. Merci beaucoup. On a besoin de 10 000 membres, je vous rappelle. On est rendu à combien?
9127.
On a ramassé quasiment 120, 100 quelques là, en deux semaines. Fait que c'est bon.
C'est bon, ça.
Alors, je sais pas. Salut à Yann Robb qui est là. Il y a Cobe qui est là également ce soir.
Hop, oh, il y a Bambino avec Bob Ross.
Oh!
Bob Ross, un des préférés de ma blonde.
C'est vrai?
Il va avoir, sais-tu qu'au mois de septembre, là, je veux pas, je vais le dire, mais je m'en veux parce que je veux me l'acheter, c'est que je veux pas me faire voler, mais il va avoir un pop Funko figure de Bob Ross qui sort au mois de septembre.
Tu vas l'acheter?
Ben, je vais l'acheter pour faire un cadeau à ma blonde. Là,
ah, ben c'est gentil, ça.
Il est vraiment cute. Là. Allez voir ça sur Amazon. Il est en pre-order présentement. Là, mais c'est pour ceux qui se souviennent de Bob Ross, là, il faisait, ça commençait ses peintures. Tu ne savais jamais c'était quoi, puis ça finissait, puis c'était comme super beau.
Oui, c'est
moi,
ça.
Moi, j'ai de la misère à faire une ligne droite avec une règle.
Ouais, Bob Ross, man.
Bob Ross.
Hey, salut à Brad Martigan qui est là. Hey, Brad, je pensais que tu étais en vacances, mon tabarnouche. Il est encore là. Salut, Brad, comment ça va? Il y a Lamar qui est là également. Il y a Devil Mark. La voix cathédrale, oui, c'est ça. On a un toit cathédrale puis une voix cathédrale également. Si vous voulez jaser avec Yann, son nick, c'est AM Dr. Doom, je vous le rappelle.
AM Dr. Doom, ouais.
Puis, vous avez des questions pendant la diffusion, gênez-vous pas également. Michel Leclerc, salutations. J'espère que tu es encore à la même place. Je pourrais aller faire un tour bientôt dans ton magasin. Je te dis ça de même. Je travaille dans un magasin d'alimentation. Sais-tu, où est-ce qu'il travaille déjà? C'est-tu chez... ben, je pense qu'il travaille... Ah, tu me souviens. Mike, tu travailles où?
C'est pas Adonis?
Non, c'est pas Adonis. Non, c'est à Drummondville. C'est, je pense que c'est... Moi, je m'en souviens plus, Colin. Pas grave. Balzar 40, salutations. Anouk 83, bonsoir. C'est dimanche qui part en congé, Brad, pour ceux qui s'intéressent. Beaucoup de gens qui vont s'ennuyer.
Oui, j'étais pas pour me dormir à soir. Tant
ben
que
non. Ball Breaker, pour avoir 10 000, il faut donner le simple malt en téléchargement via port USB, nous dit.
On va se rendre plus que 10 000 si on commence à, livrer de la bière par Internet.
Puis on va faire plus que 50 prisons.
C'est au Maxi qui travaille.
Au Maxi, merci beaucoup, Bone. Merci beaucoup, Mike.
Tu vas faire quoi? Tu vas rentrer dans le Maxi, genre un samedi soir? Tu vas
je vais aller le voir.
Où est Brad?
Non, pas Brad, c'est Mike Leclerc.
Oh, excuse-moi. Tu vas crier où est Mike?
Je devais aller, la dernière fois que j'étais allé à Drummond, je voulais y aller. Puis finalement, ça n'a pas donné. Bon, peut-être ma mère, puis ça, puis on s'est mis à jaser, puis à faire des commissions, puis le kit. Puis t'es rendu trop tard, j'ai pas eu le temps. Mais, on va me reprendre, mon Mike, il n'y a pas de problème. Bambino, salut, comment ça va? Il dit, Brad, il dit qu'il passe ses vacances en même temps que nous autres.
Ah, c'est bon.
Parce
ça.
Que comme ça, il est toujours là. C'est un des modérateurs qui opère très, 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 très bien avec tout le reste, comme Bencho Sly et notre ami Guy Katyoshi également. Ce soir, on boit de la simple malte, comme d'habitude, l'abbaye de mon côté.
Moi, je suis une IPA mosaïque, qui est une IPA américaine.
Hey, vous allez voir.
Strong Ale, 5,9%.
Elle est bonne, celle-là.
Et en plus, celle-là est pas pire parce que c'est un autre bijou de la vie, tu sais.
C'est ça qui est écrit.
Ouais. Elle est intensément américanisée avec un dosage exagéré d'équilibre doublon exotique, mais au degré élevé de buvabilité.
Caroline, que tu connaissais la bière.
Ouais, moi, je suis de même. Moi, le ratebeer.com.
C'est toi,
c'est moi, ça. Toutes les reviews. Mais là, je suis plus au cid, je te dirais. Depuis mon retour d'Irlande,
Décroche du cid un peu.
Non,
là.
Je décroche pas, man.
Aussi, tu l'achètes à Régie.
Je suis obligé d'aller au LCBO quand je vais en Ontario parce qu'au Québec, il n'y en a presque pas de cid.
Ah, là, je comprends ton voyage.
Ouais, là, je pense que c'est ça. Je viens avec ma fille. Mon papa, on va aller voir des musées. Oui, mais ouais. Papa, il va faire des pet stops dans LCBO aussi.
Hein, on va dire comme ça, c'est des magasins et des liqueurs.
Oui, Hard Cider, là, ouais. ils m'ont eu.
Bon, ben, tu vas donner des sous, tu m'en amèneras 6.
Oui, je vais t'en amener des Magners. Ça, c'est des bons de début. Okay. Aux États-Unis, c'est des Angry Orchard. Ça aussi, c'est du bon site de débutants.
De débutants. Va donc coucher. Site de débutants. Come on! Hey, stand by, on commence ça dans quelques secondes. Radio Talbot est une présentation de HyperX, la bière Simple Malte, BrainPad Consulting, Mon VR, vivez la réalité virtuelle, Moog Audio et CIPC. Comment allez-vous tout le monde? C'est Talbot. Bienvenue dans ma grande caverne. J'avais oublié d'enlever l'écho. Comment allez-vous? C'est Radio Talbot, dernière de la saison pour moi. Je prends des vacances la semaine prochaine. Ah ouais. Un petit deux semaines. Puis sûrement qu'il va y avoir des playtests dans ces vacances-là. Mais parlez-en pas à ma douce. Yann Richards est avec nous ce soir. Bonsoir, mon ami.
Bonsoir,
Yann.
Mon Denis, ça va bien?
Oui, toi aussi, tu t'en vas en vacances.
Oui, mais là, je suis en vacances vendredi, ben, en congé vendredi, samedi, dimanche. Je rentre du lundi au jeudi, puis vendredi le 4, c'est officiel, mois de vacances.
Très cool, félicitations. Hein? On travaille fort, je pense qu'on le mérite.
Oui,
et j'ai des invités également en studio, mesdames, messieurs. Gardez ça à côté du beau Yann. On a André. Bonjour, André.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Bien, merci.
Tu travailles où, toi?
Moi, je travaille chez Cardboard Utopia.
Et qu'est-ce que vous faites là-bas?
Alors, moi, je suis en charge des affaires, du développement des affaires, des communications, des opérations, en fait. Tout ce qui est pas
publicité.
Faire le jeu lui-même.
OK. And this guy, c'est cet homme, mesdames, messieurs, c'est Jason. Salut, Jason.
Salut.
What do you do exactly at the company there?
I'm the studio head and creative director.
Get closer to your mic just a bit, OK? But just bring it towards you a bit. C'est le créateur des jeux, finalement, avec une équipe. How many people work there? Combien de personnes travaillent chez vous?
At the peak, we had, during the game, we had
eight
people, and now we're, since the project's over, we've gone down to five.
Okay. Donc, il était huit au début du projet, ils sont rendus à cinq. Un petit studio qui a réussi quand même à faire un jeu intéressant. Yann, parle-moi un peu de ce jeu-là. Tu y as joué un peu. Qu'est-ce qui t'a attiré d'abord? Le nom du jeu, c'est quoi tout d'abord?
C'est Children of the Zodiacs. Am I pronouncing right? Zodiacs?
Of Zodiac.
Yeah.
Of Zodiac.
Okay.
Of Zodiac. OK. Et donc, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce jeu-là?
Moi, honnêtement, d'habitude, je suis beaucoup les Kickstarter.
Oui.
Puis là, je vais faire mon meilleur culpa. Celui-là a carrément passé en tour de mon radar. D'habitude, je suis les Kickstarter canadiens beaucoup.
Oui.
Et quand on était au Comic-Con, il y avait la zone indie. On s'en est parlé, on l'a fréquenté un peu. Et un moment donné, j'ai passé devant la zone indie et il y avait un des réalisateurs du jeu. Je pense que c'était un designer qui était là avec vous.
Oui, c'était notre directeur de design.
Et il est en train de l'expliquer à quelqu'un beaucoup plus jeune que moi.
OK.
Puis je voyais qu'il faisait rouler des dés, puis ça se contrôlait un peu comme Final Fantasy Tactics, okay. Fire Emblem, des jeux que moi, je jouais quand j'étais jeune. Puis j'ai fait, oh, attends une minute, je veux checker ça, là, qu'est-ce que ça a l'air. C'est que là, j'ai resté, puis j'ai regardé le jeune jouer, plus que j'écoutais l'autre donner des explications, puis j'ai vu qu'il a catché ça en même pas 3 minutes, ça allait bien, tout de suite, il savait quoi faire, rouler les dés, les cartes, les pouvoirs, puis j'ai fait, oh, attends une minute, c'est simple, puis ça a de l'air cool, puis les graphismes m'ont vraiment attiré en même temps. C'est que là, j'ai dit, ah, I'm next, je veux l'essayer. C'est que là, je me suis mis à jouer, puis on s'est mis à parler de ça, puis ils m'ont eu avec même pas 5 minutes avec le jeu, je me suis dit, ah, faut jouer à ce jeu-là.
Un jeu, donc, qui a été conçu ici même à Montréal, with 8 people, this was made. It started when exactly? When did you start to work on it?
It started when I guess end of 2013 when I left Ubisoft.
Okay, you were working at Ubisoft doing what exactly?
At the time, I was taking over as lead game designer.
I see.
Yeah. The project was never announced.
So, okay, yeah, that often.
That happened often.
Yeah, yeah. Yeah. Well, it also got canned, so I mean, that does happen as well.
Non, j'ai travaillé chez Ubisoft sur un projet qui n'a pas été annoncé, qui a été canné. Ça arrive et croyez-moi que ça arrive plus souvent qu'on le pense finalement. So, you got involved in this game. Did you have this game in your head for a long time, or was it a big concept with your friends? How did it come out?
I started on it alone, just kind of really wanting to do something with board games, and bring that in to video games, because I was playing a lot of board games at the time, and I really loved a lot of the mechanics of what I was playing, but the board game wasn't as reactive as a video game okay. can be with like AI and everything. So like, you know, like I'm a game designer in video games. I'm going to try to bring it in. And so that kind of stewed for a little while.
Is that what brought the dice into the combat system? Your background as a board game gamer?
Yeah, yeah, that's exactly it. I mean, the intention was more to take the player experience of like surprise and tension, you know, as you're rolling your dice, like, ooh, what am I going to get? and then just, all right, bring that more into like, all right, translate that into a video game. And just, yeah, dice and cards was just a good way to accomplish that feeling.
Donc, c'est un joueur de jeu de board game, finalement, ouais. un jeu de table. Finalement. Puis, il voulait amener cette petite touche de jeu vidéo au jeu de table, ou l'inverse plutôt, amener une
expérience de jeu de table vers le jeu vidéo.
Exactement. Puis, avec des éléments beaucoup plus dynamiques, juste rouler des dés de façon plate. Et ça a donné, donc, une expérience qui
parce que, normalement, dans ces jeux-là, quand on joue à Final Fantasy Tactics, on joue à Fire Emblem, c'est des combats. Ouais. C'est des habiletés qu'on utilise, puis on arrive devant l'autre personne, on swing notre épée, on fait un sort, we do a spell. Puis là, après ça, il y a toujours un risque d'évasion de l'autre personne. Et là, t'es là, ben là, je pouvais le frapper à 98%, puis ouais. Le 2% finalement fait que je touche personne. C'est frustrant parce que tu calcules. Celui-là, la façon que c'est fait, c'est qu'on roule des dés pour certains pouvoirs, mais ça va avec des cartes aussi. Comme vous voyez, là, les dés qu'on voit à l'écran, différentes habiletés qui vont avec les dés, certaines cartes. Si on roule certains items sur les cartes, vont activer des habiletés secondaires sur les cartes. C'est qu'il faut gérer en même temps notre inventaire, mais pas comme un jeu habituel. Il faut gérer notre inventaire de cartes. C'est que des fois, il faut skipper un tour pour pouvoir piger d'autres cartes pour reflouer, parce qu'on peut se ramasser avec des cartes juste pour exemple se guérir ou défensive, mais aucune carte d'attaque. C'est que c'est vraiment un équilibre entre j'attaque, je me repositionne, je défends, puis je pige des cartes. C'est que le côté vraiment tactique de ce jeu-là me surprit au début quand j'ai commencé à jouer. I was surprised at the depth of the tactical choices you had to make when you first started to play because you can run out of attack cards, defense cards, defense, repositioning, pick new cards, help somebody that's down. So I really liked that aspect. I wasn't expecting that much depth when I first started playing, and that I really enjoyed about the game.
Oh, well, thanks. Yeah, I mean... like going for depth was like it's part of like a core principle of our studio of games that you can really like dig into that like you know there's a surface but if you as a player want to go deeper then yeah there's going to be something there's substance exactly
ouais. Donc il y a un jeu avec beaucoup de substance, un jeu avec beaucoup plus de profondeur que la plupart des jeux qu'on connaît. Donc il veut que lorsque vous jouez à ça, si vous ça vous tente d'aller plus loin puis de fouiller puis de rentrer dans le jeu, avoir une expérience assez riche.
Your Kickstarter experience, how was it? I saw that you really went above and beyond your original goal.
Hey, check that out.
Yeah.
Woo. Wow. 259,000.
And you asked for 50,000, you got like $200,000 more.
More.
After that, what brought you to Square Enix Collective?
Well, actually...
It's two questions in one, but...
Well, because he had the money, so they said, yeah, come on down.
We'll take care of you.
Actually, we were with
the collective.
The collective, yeah, yeah. Like kind of going back to 2014.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. En fait, quand Jason, parce que pour revenir un petit peu à la question du début, là, Jason, ouais. Il avait ce concept-là dans la tête depuis, c'est ça, peut-être 2013-2014, mais okay. Ça a commencé à se formuler un petit peu plus, tu sais, fin 2014, début 2015, puis Jason, il avait présenté le jeu sur le collective. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez ça.
Oui, c'est une espèce d'association. Tu présentes des jeux, les gens votent.
C'est ça, il y a un feedback ouais. De la communauté. Puis nous, on a eu un feedback qui, à l'époque, c'était une des meilleures campagnes qu'il y avait eu. On a eu 93% là, d'approbation sur cette plateforme-là. Fait qu'à ce moment-là, ce que Collective faisait à l'époque, c'était qu'il disait « OK, ben si vous partez en Kickstarter, on va vous backer. »
OK.
Si vous voulez. T'sais, on peut faire un entente, tout ça. Donc, nous, on a dit oui, parce qu'évidemment, c'est sûr que Square Enix, avec un jeu un peu JRPG tactique, ça sonnait comme bien.
Ça sonne super bien.
Fait que ce qu'on a fait, c'est que... En fait, c'est ça, c'est qu'eux, ils ont supporté la campagne. C'est-à-dire que nous, la campagne Kickstarter, elle a été dans la lettre de Square Enix tout court.
Nice.
Fait que c'est sûr que ça a été un gros facteur de succès. Fait que nous, on avait déjà une relation avec Collective à ce moment-là.
OK. Mm. Donc, là, vous faites quoi avec tout cet argent-là? Est-ce que tout l'argent est passé dans le développement? Est-ce que vous en reste pour d'autres projets éventuellement?
Bien, l'argent, c'est sûr que l'argent du projet sur Kickstarter, c'était pour ce projet-là. Okay. Là, donc, c'est, en fait, tu sais, puis on a écrit une lettre il y a quelques mois d'ailleurs à nos backers pour expliquer un petit peu comment ça s'était déroulé. Mais en fait, ça nous a permis de presque doubler, en fait, le contenu du jeu. T'sais, quand on est arrivé sur Kickstarter, on a présenté ce projet-là. Le projet qui est dans vos mains en ce moment, tu sais, il est deux fois plus gros que ce qu'on avait prévu au départ. C'est aussi une des raisons pour laquelle il est sorti plus tard qu'on pensait. Au début, on disait août 2016.
Ah oui, c'est ça.
On vient de sortir en juillet 2017. Mais les backers ont quand même compris ça.
Mais ça, to be honest, like when you do a Kickstarter, and I did a lot, like either board games or PC games.
You're a backer.
I'm a backer. Like when it's projects like I want to play, like example, Pillars of Eternity, like old school RPG from Obsidian and stuff like that. And I remember backing the first Zombicide. Oh. Then I just stopped because at one point they were just doing it like every 6 months or something. I was like, well, this is not a cash cow. But it's still, you're used to delays. It's not like something that you say, hey, they promised like 2016, I want it now. Of course, you have like these toxic players or backers that are expecting like now, give it to me now. But bon, it's Kickstarter. You're kind of used with the delays.
En gros, ce que Yann dit, c'est que lorsqu'on va sur Kickstarter puis qu'on back un projet, c'est sûr qu'il va y avoir des délais et les backers, ceux qui financent par financement participatif, sont habitués à ça.
Ouais.
T'sais, en tout cas, were they nice with you guys?
En général, quand même vraiment beaucoup. Tu sais, c'est sûr que pas tout le monde est habitué à ça. Il y a quand même des gens qui nous ont dit puis qui nous ont répété qui lisent pas nécessairement les mises à jour, les trucs comme ça, puis qui font comme, ben là, vous aviez promis le jeu. Mais nous, on a vraiment... ça nous a tenu à cœur d'être assez transparent pendant tout le processus. Jason, tu sais, you gave a lot of updates as you were going along. You were pretty transparent with the whole process. Puis les gens, je pense qu'ils ont apprécié ça. Puis ça a été vraiment rare qu'il y avait des grosses critiques. La plupart du monde ont été super, tu sais, puis on avait même nos community managers par intérim, tu sais, dans les commentaires.
Il y a des gens qui embarquent volontairement là-dessus puis qui répondent aux questions parce que eux autres, ils vous suivent puis ils ont hâte justement de voir.
On a une question sur Twitch. Je sais que c'est un peu. We have a question on Twitch. I know it's a little early, but I backed Battle Chasers because I love the comics and it's a little bit like JRPG, like a little bit what you guys did. And it was announced recently that was coming out on the Switch console. And then I switched to the Switch because I said, this is like a perfect portable game. And to be honest, while playing your game, I thought the same thing. I was like, wow, if this game can come out on Switch, I think I'll get it again just to play. And we have a question. Do you think that kind of game would eventually come out on the Switch?
Well,
bonne question, ça, yeah.
When the Switch got like shown off and everything, like we were super really excited about not just as gamers, but like, come on.
Another outlet.
It's made for this.
No, that's just it. Like, I mean, our game fits very well on a portable platform. And you know, if you want to put it on the TV, yeah, you've got it. So we did look into it, and, you know, doing a lot of preliminary talking and such. There are quite a bit of, costs and certain, like a lot of other factors. So basically it's become one of the things that, okay, we're keeping our eye on it, like following it up, but fortunately nothing really to say.
But if you make a sequel eventually, that'd be the kind of platform you would put it on.
C'est sûr qu'on a nos yeux, tu sais, grand ouvert sur la Switch. Il y a des gens qui nous demandent pour des ports, pour d'autres consoles, tout ça. C'est sûr qu'on regarde aussi, tu sais, les fans, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi qu'on nous demande le plus souvent. On peut rien annoncer d'officiel, c'est super plate comme réponse. Mais tu sais, on est énervés nous autres aussi, là, tu sais. Puis
on est habitués de ce genre de réponse-là aussi, tu vois, chose. Ça fait
on n'est pas
surpris. Exactement. Donc, si on parlait de l'histoire, André, je vais te demander de le faire en français pour les gens. C'est quoi l'histoire de ce jeu-là? Où est-ce qu'on est, là?
Alors, l'histoire de Children of Zodiac, ça se passe dans une ville qui s'appelle Taurus. C'est une histoire c'est l'histoire d'une bande de jeunes voleurs là, qui vivent un peu dans la rue, tout ça, puis qui vont piller des nobles, qui vivent dans une espèce d'empire colonial, un petit peu, si on veut, là, où ils sont comme opprimés par cette espèce de caste.
Ça, c'est les images du Kickstarter que je vous montre en ce moment, la vidéo du Kickstarter. C'est pour ça qu'elle était un peu
plus... Ça a beaucoup changé depuis ça.
Ah oui, ça, c'était prototype là, à l'époque. Mais on voit que l'idée du gameplay était déjà là. Mais donc, Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui se passe. Donc, cette bande, on suit l'histoire. Le personnage principal, c'est Nami, la petite fille avec le couteau. Donc,
Ebony Blade.
Ebony Flame.
Ebony Flame. Ah, t'es pas loin,
la flamme d'Ebène. Et Jason Dilly, il connaissait pas son nom en français.
Ah non!
Mais, donc, c'est ça. Donc, ils vont. Puis, en gros, c'est ça. C'est une histoire qui a des thèmes quand même classiques des JRPG. Ils s'en vont faire un raid, si on veut, dans les appartements d'un noble qui a vraiment beaucoup d'argent pour aller voler une précieuse relique. Parce que dans cet univers-là, il y a les Zodiacs, qui sont en fait des. Qui sont des cristaux qui donnent du pouvoir, en fait, à des armes. Là. C'est comme. C'est le fondement un petit peu de toute leur armée, puis leur pouvoir, puis tout ça. Donc, ils vont voler ces anciennes reliques-là qui sont très puissantes. Mais là, il va se passer des choses. Évidemment, ça va pas se passer comme on pensait.
Je suis rendu là.
Mais, ah ouais, donc j'en dirai pas plus.
Pas de spoiler.
Ce qui est intéressant avec l'histoire, en fait, c'est qu'on a essayé aussi, tu sais, autant qu'on essayait de rendre hommage aux histoires classiques de JRPG, on a essayé de faire quelque chose d'un petit peu différent aussi, au sens où c'est pas une histoire de jeune héros au cœur pur, blond aux yeux bleus, qui va sauver le monde. C'est plus l'histoire d'une gang de jeunes qui se sont vraiment fait maganer, puis qui essayent de survivre, puis qui essayent de trouver c'est quoi la fine ligne, en fait, entre survivre, puis être loyal, puis avoir de la compassion, mais hein, c'est ça.
Un peu lié dans ce qui se passe dans les favelas, un peu, là. Tu sais, les gangs de jeunes qui tentent de survivre dans un environnement qui est
Le jeu est déjà disponible en français. Je pense qu'il est disponible en 7-8 langues, je pense.
Oui, en ce qu'on appelle IFIX, donc en anglais, français, italien, allemand, espagnol.
OK. Mm-hmm. Je me suis juste la question sur Twitter. Moi, je joue en anglais, c'est que je me suis dit, non, il me semble que j'ai vu l'option français quand j'ai installé
le jeu. La traduction française n'est pas mauvaise, en plus. Ouais. On est content de ce qu'on a eu, là. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour que la localisation... On a repassé dessus un petit peu, en fait, là, dans le sens où, pour nous, c'était important vu qu'on est un studio à Montréal, qu'on est un studio bilingue, c'était important que le français soit aussi bon que l'anglais, finalement.
Effectivement,
là.
Ouais.
Donc, on s'est arrangé pour être sûr qu'il n'y avait pas des traductions vraiment weird, qui ne fitaient pas avec...
Je vous arrête une seconde juste pour dire un gros merci à Sam Huffel qui vient de se réinscrire pour une troisième année. C'est très cool, merci beaucoup. Et à Boshi également qui est redevenu membre pour un 31e mois d'affilée, c'est très très cool. Donc, parlons de la jouabilité maintenant. Donc, c'est du tour par tour.
Oui.
Alors, qui commence? Comment ça marche? Est-ce qu'on lance des dés comme quand on joue?
J'ai beaucoup aimé le pitch de Yann tantôt. C'était parfait. T'as vraiment bien compris le sens du jeu. C'était merveilleux. Donc oui, c'est du tour par tour. Ça commence avec le joueur. En fait, le joueur va jouer tous ses personnages avant que l'ennemi puisse jouer ses personnages. La façon dont le tour se déroule, en fait, c'est qu'on fait un mouvement si on le souhaite. On n'est pas obligé. Ensuite, on joue des cartes pour attaquer. Donc les cartes, c'est à la base de toutes les habiletés, que ce soit des attaques, de la guérison, des habiletés de support, tout ça. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer des dés pour moduler un petit peu l'effet de l'attaque.
Okay.
Donc, l'idée avec les dés, c'est qu'ils ne sont pas basés sur des chiffres, c'est des symboles. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller optimiser son coup. Donc, est-ce que j'essaie d'avoir certains symboles pour finir ce gars-là d'une shot, est-ce que j'essaie d'aller me chercher un petit peu de guérison pour ne pas avoir à dépenser un tour, une carte, quelque chose comme ça. Donc, comme tu disais tantôt, Yann, l'idée, c'était vraiment d'aller ajouter des couches de tactique puis de stratégie avec ces mécaniques-là.
Bon. Puis, on peut aussi changer, excuse-moi de rajouter, je sais que c'est votre jeu, mais. On peut aussi changer, plus qu'on monte de niveau, plus qu'on a d'autres cartes, nos cartes montent de niveau, nos dés montent de niveau. Et là, on peut se faire un deck un peu comme on veut, ou on peut dire à l'ordinateur, optimise mon deck pour moi, comme ça, pour ceux qui n'aiment pas de la micro-gestion, ils peuvent demander à l'ordinateur de le refaire. Moi, la seule chose que j'ai encore de la misère à gérer, to be honest, the thing I not fully comprehend, but I'm like 10 hours in or something, it's the dice maker. Why would I change some of the... Since I don't know like what my... most powerful cards will be down the road.
Mm-hmm.
I'm not yet to the level like I want to change my dice that much, like the signs on my dice.
Mm-hmm.
Parce que si on peut modifier nos dés, ça je disais, pas juste nos cartes, on peut prendre éventuellement qui se débloquent, nos dés montent de niveau, et là on peut dire, OK, moi j'ai des étoiles sur mes dés, mais j'ai aucune carte qui utilise des étoiles comme habilité secondaire. Je veux les enlever parce que je veux piger des cartes à la place parce que je manque toujours de cartes. Et là on peut modifier les signes qui sont sur les côtés de dés.
Okay.
Rendu à mon niveau, peut-être parce que je suis pas encore assez loin, j'ai pas encore eu le besoin de faire ça, puis je peux pas dire que j'ai eu tant de difficultés que ça là, au jeu à date. Et on peut même, le terme que j'aime beaucoup là, de JRPG, on peut même à un sens grinder, souffler, puis monter nos personnages de niveau parce qu'il y a des batailles qu'on peut faire aléatoirement, qui est comme des challenges juste pour le fun, là, puis ça monte nos personnages de niveau aussi en même temps.
Là, en lisant un peu ce qui s'est dit sur Internet, je me suis rendu compte que c'est un jeu qui est quand même qui s'adresse, aux néophytes, mais qui est assez difficile. Plus on avance, it can be a very hard game, can it?
It can get there.
Go ahead.
Oh, yeah. It can get pretty difficult, and that's where like players have avenues to reduce that difficulty of you're kind of mentioning there's grinding that you can do to level up your characters to be more powerful than the enemies. But we've been listening to a lot of because the game has been out now for about 10 days, and we've been listening to a lot of the feedback that's been on the Steam forums. And a common comment was
common comment. That's good.
was about the necessity of grinding. So so right now we're working on a patch. Like it's our second patch right now, of adding in the option for the player to adjust that if they want to have more of a more of a narrative focused experience of just play the maps as they come, and just mostly focus on the story. They're gonna have that option available to them,
especially when they did in special action RPG games. I remember when I played Mass Effect 2, my first options was no, I'm there for the story. I like action. Ooh, please kill me now. A little bit like Wolfenstein did in the day. Please, daddy, let me play and stuff like that. I didn't see it yet, that option. Maybe because I'm more I'm a hardcore gamer. I like to have a challenge when I play.
Well, it's not in yet.
Okay, so it's coming.
Yeah, it's coming. We'll be putting it in. We're expecting it'll be available next week.
When you do a patch like that, because we need to tell people.
Oublie pas de traduire aussi.
Oui, il dit qu'il y a une mise à jour qui va se faire bientôt pour permettre aux gens, peut-être qui ont un petit peu plus de difficulté à faire de la gestion, d'y aller plus sur un côté histoire. T'sais, moi, je veux juste voir l'histoire où ça s'en va, sans me casser la tête avec des combats un petit peu plus trop difficiles. Faut vous mentionner aussi que le jeu n'est pas disponible seulement sur Steam, il est disponible sur la PS4.
Oui. On devait. On pensait peut-être avoir le temps d'avoir une copie PS4.
Moi, je l'ai envoyé peut-être un petit peu trop tard. Mais
c'est pas grave.
On se relancera.
Parce que tu vois, moi aussi, je regarde ça, je joue sur PC, mais je regarde ça et je me dis, non, je jouerais sur PS4 aussi à ce jeu-là, parce que c'est le fun. Mais y a-t-il une raison en particulier pourquoi plus la PS4 que la Xbox One? Parce que considérant que le monde a encore la mentalité de se dire. Mais c'est PC. Si on programme pour PC, c'est Windows. Pourquoi on programme pas pour la Xbox One?
Ouais,
peux-tu illuminer un peu les gens? Can you explain that to people? Because a lot of people have that conception. It's a PC game. Why isn't it on Xbox? Because it's Windows. Yeah. Windows. It should be the same system.
Not-ish. because, Windows nowadays has just become PC. There's Mac, and then there's just, there's Mac and Linux, and then just Windows. And Windows is just kind of more of a neutral zero state, where putting it onto the Xbox One, that's, they've put a lot of, Microsoft have put a lot of integration in and compatibility with Windows 10. So it's more that if you make it for Windows 10, then it's really easy to transfer over to Xbox One.
It has to be coded for Windows 10.
And specific features and such. But the thing is that we're using the Unity engine.
Yeah.
And getting it to work is... Just getting it to run on a different console is pretty quick. Because we got the PS4 version running within 2 days. Wow. But that was 1.5 days of just setting up the PS4 dev kit. So it's really quick. And so the engine makes it really easy.
Saves a lot of time.
No, that's it. You'll forget about it. Back in the PS2, 360 and PS3 days, you had to have, there was no easy compatibility and portability between them, the two consoles. You had to do a lot of specific work.
Weeks and weeks. Months.
If you're lucky, weeks and weeks and months,
Yeah.
What was I gonna say? The part, and getting it running on the console is not what's difficult. But getting it to run well, that it you don't have bugs, and that you're actually correctly using the architecture of the system of the console. It's much better nowadays because the Xbox One and PS4, they're pretty much PCs. Just with their own way.
Just like, you're going to get flamed. I'm telling you right now, the internet's going to go crazy.
I mean in the sense that like their parts are off the shelf PC parts,
yeah. Okay. Yeah.
With their own configuration and their own OS and everything. But then what makes it everything else take more time is every console has their own rules.
Yeah.
Of, all right, technically it has to be this, this, and this. Like when you save your file, it has to go here. You cannot have your game use this bank of memory for data and this bank of memory for data. Like this is only for audio, and if you do that, you fail and you have to fix it.
Do you mind if we translate a little
Yes, sir.
Vas-y, mon gars.
Je peux y aller?
Ouais.
Moi, j'ai posé la question parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que vu qu'on ça développe sur PC, exemple sur Steam, que ça devrait bien fonctionner sur la Xbox One,
ouais, ouais.
Et pourquoi c'est sorti sur les PS4 à la place. Et il dit que c'est compatible si on programme le jeu pour Windows 10. C'est plus facile si on fait principalement Windows 10 pour le transférer sur la Xbox One après. Tandis que maintenant, la façon que la PS4 a été faite, c'est tellement facile de prendre un jeu avec le Unity System puis de le transférer sur la PS4 que ça s'est fait, il dit, en deux jours.
Ouais.
Puis là-dessus, il dit, ça a été une journée et demie à peu près de juste setter le dev kit de la PS4 comparativement à ce qui fait des comparaisons avant. Dans le temps que la 360, la PS3, c'était des semaines et des mois pour essayer de programmer le même jeu qu'on avait sur PC sur console. Et la raison pour laquelle on a ri un peu, puis on a fait des blagues, c'est qu'il a dit que maintenant, la PS4 et la Xbox One, c'est sensiblement un PC. C'est que là, on a taquiné un peu parce qu'on sait que l'Internet n'aime pas ça, les guerres de console. Ça fait qu'on s'est dit, oh, il va se faire harceler parce qu'il a dit ça. Mais ce qu'il voulait dire, c'est que techniquement, le matériel qu'on trouve à l'intérieur des consoles comme PS4, Xbox One, c'est des pièces de PC qu'on peut trouver là, dans les magasins là, off the shelf. Là.
Pour ceux qui viennent de joindre nous, je rappelle qu'on s'entretient ce soir avec des chums qui travaillent chez Cardboard Utopia qui viennent nous offrir le jeu Children of Zodiac. Hein? Non, pas of the Zodiac.
Ouais, c'est ça.
C'est comme... Donc, OK, ça fait... It's been a while. Ça fait longtemps que tu travailles sur le jeu. You've been working the game for, you know, for a long time now. What's the feeling of seeing it coming live? You know, selling it and getting the feedback.
Is it hard?
Yeah.
Oh God, yeah, it's super hard. Like, it's been very different from my past experience in the industry. Like, I mean, I've shipped like about 8 or 9. Games.
Yeah, but they weren't yours.
No, but because this has been a
your
project
baby.
Of ours, like, yeah, in the studio and the team, and I'm also running the studio.
You're doing everything basically.
Well, a lot of help from Andre.
Yeah.
Don't get me wrong.
I mean, everybody's doing everything.
Yeah.
You have to do that.
And what's very different is that. The other games that I've worked on, like, okay, there's marketing and there's like demos at like Gamescom and PAX and whatever, but it's the game's not released to the public in a grand way until it's actually released.
Yeah.
So like all that excitement of and anticipation, like it comes together at that one moment when boom, everything is out there all at once. But with the way that, like with the Kickstarter and releasing alphas to people, and like, you know, we've been going to a lot of shows, Montréal Jeux and DreamHack and Otakuthon and Montreal Comic Con and everything, we've been able to like see and interact with people as they're discovering the game and playing it for the first time.
Getting the feedback as they play.
Yeah. And seeing their reaction and their excitement. But instead of getting all of that at one moment on release, it's been a bunch of pockets of it gradually over the years. So when the game released, it was kind of like, I mean, it was really awesome. It was really exciting, but that giant singular explosion has been spread over this year and a half long process. So it's been very, very different. Like, and it's been exciting, really, in its own way. But also, like for me now, I also worry about marketing and post release and
FMC.
Exactly.
Canadiens.
Oui, and thank you very much to them for
une chance qu'ils sont là, hein?
And so it's been like I'm used to the game is near the end. As a designer, I finish and then I go away. And then a game comes out in like 3 weeks.
Okay, now you're now assigned on this game. You'll be working on Rainbow, or you're going to be working on Far Cry or whatever. And you do your stuff, and then the game ships, and then you move around.
Yeah, exactly.
But this is your baby.
No, yeah, and it's sometimes hard to
let it go.
Someone criticize your baby.
Oh yeah.
But I mean, like it's stuff that you prepare for, because it's heavily balanced out. Was heavily outweighed by like all the positive and people playing really enjoying it.
Donc je parlais un peu de sa relation avec son jeu puis le fait que c'est son bébé à lui puis il l'a sorti. Est-ce que comment tu prends ça les critiques? C'est difficile, c'est pas évident. Mais heureusement que il y a beaucoup de personnes qui aiment le jeu et ça vient contrebalancer des quelques critiques souvent parce qu'il paraît que des gens chialent sur internet. J'ai entendu dire ça. Il paraît que son... C'est pas... Il chiale. Il... Non, mais c'est que son jeu est sorti. C'est son bébé à lui. Mais quand tu es dans un petit studio, ben, tu fais tout. Tu fais du marketing. Tu t'associes avec des gens qui vont faire un peu de tout également. Tu cours les subventions. Tu fais tous les salons pour faire connaître ton jeu. Et lui, il m'expliquait que justement, son excitation, il l'a connue par petites vagues, si on veut, parce qu'en faisant les salons, tu avais les réactions immédiates de tous les salons qu'il y a eu à Montréal et au Québec et probablement au Canada. You're going to PAX West? No?
I don't think we're not going to
be there. We'll be there. That's
why we do PAX East.
Okay. Mm. We're going to West. Anyway, ça va bien pour eux autres. Puis c'est sûr que quand ils mangent une critique un peu de travers dans Baboon, c'est un peu fatigant, mais ils réussissent quand même à passer à travers.
How was the recruiting for your team? You said you did that like a 6 people. Did you handpick everybody? Did you went to see your friends that you worked with Ubisoft or the companies, or did they came to you when they knew that you left and you wanted to work on your own game?
It was actually a mix of all of that. Our lead programmer, Denis, not Talbot, but someone else. he left, we were on the same team at Ubisoft, and he left a few months before I did, and then we ran into each other at an event in the holiday. And we just started talking and then he joined on. And so that was a matter of someone that I knew and that I worked with. I didn't really know him that well, but still it worked out really well. And then I had other friends that I asked hey, you want to join? There were some people that found me and really all of it was a mix of all of those options.
I think the game's like 19...
Traduction.
Oh, oui, traduction. J'ai demandé si c'était comment son recrutement, parce que je veux pas, c'est une équipe de 8 personnes, c'est quand même assez petit. Il faut mieux s'entendre avec les gens, puis si on travaille avec 8 personnes toujours dans le même studio. Et il a dit que c'était un mix des gens qui sont partis avant lui de Ubisoft, qui se sont rencontrés dans un événement, qui ont comme parlé ensemble, ils ont décidé de se joindre. Il y a d'autres gens qui l'ont approché lui, d'autres ça a été des contacts, et ils ont décidé de travailler ensemble là, pour faire le jeu. Le jeu, pour les mentionner pour nos auditeurs aussi, est disponible, c'est ça, sur Steam et sur PS4. Et il est 19,99, je crois, hein, ou 22?
En ce moment, oui, il est à 19,99 canadien. Il est aussi sur GOG, sur le Humble Store, puis sur Green Man Gaming.
Vous êtes partout. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as réussi à faire ces liens-là avec tout le monde. Comment tu les approches, ces compagnies, pour les gens qui voudraient éventuellement faire quelque chose du genre? Comment on réussit à rentrer partout? Des heures et des heures de négociation?
Ben, en fait, c'est pas tout moi.
Non? OK.
Pour ça, parce que, encore une fois, notre entente a fait qu'en fait, avec Square Enix Collective, ça couvre beaucoup ça, là, la distribution, tout ça. Nous, on avait déjà des contacts avec PS4, avec Sony, puis avec Steam, tout ça. Les studios indépendants, ben c'est ça, ils peuvent aller... Tu peux leur rentrer en contact avec des relations qui s'occupent. Généralement, ils ont comme un département indie, le développement indie, tout ça. Green Man Gaming, ça, c'est vraiment Collective qui est... au Royaume-Uni, là, qui s'est comme occupé de ça. Le Humble Store, pareillement. C'est ça. You had contact, right? With Sony and like... Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, il faut comme entrer en contact avec ces gens-là, trouver justement ce département-là. Mais généralement, tu sais, maintenant, là, la distribution numérique, c'est tellement rendu répandu avec les indies que c'est pas... l'étape la plus difficile d'aller trouver ces contacts-là, c'est plus de, t'sais, d'arriver. Puis là, t'sais, tantôt, on disait que le PS4, ah, c'est super facile, tout ça. Mais, t'sais, OK, peut-être côté codé,
hardware,
le truc, mais t'sais, il y a quand même des grosses exigences quand on arrive dans le pipeline. Puis
pour le distribuer.
Oui, ben, c'est-à-dire pour le distribuer, puis pour qu'eux approuvent le jeu, puis ils disent oui, c'est correct, vous pouvez le mettre sur notre console.
Votre jeu est digne de notre console.
Oui, exactement. <C'est ça.
rire> Il y a quand même un jeu qui s'appelle Mayonnaise, tu sais, je veux dire, ouais. Sur la PS4, là, où you just click on a mayonnaise bottle for like 5 hours.
Oui, mais le jeu est digne de la console.
Mais ça, ils ont quand même passé par un certain processus qui demandait que ça soit assez tight pour qu'ils acceptent. C'est ça, c'est plus cette partie-là.
Mais moi, ce que... I think one of the best compliments I can give you about the game, because I played, and it's my kind of game, is I've played full-price games at $80 that were not as polished as this one. And to be honest, that blew me away when I started playing. So congratulations for that. I have to tell you guys that it really blew me away.
Merci. C'est vraiment... C'est intéressant que tu soulèves ça parce que, si je peux me permettre, dans les réactions qu'on a reçues, ça a été quand même vraiment intéressant, cette aventure-là, parce que tu dis, moi, je suis un fan de ça. Puis nous, on est rentrés dans ce projet-là en ayant un RPG tactique dans les mains puis en se disant... t'sais, on connaît la niche. Jason, c'était un joueur de RPG tactique, puis c'était vraiment une lettre d'amour là, t'sais, à ce genre-là. Puis là, on s'est ramassé avec Square Enix Collective. On est comme, c'est parfait, match made in heaven, comme on dit. Tout ça. Mais là, on fait face aussi avec un auditoire qui ne nous connaît pas nécessairement, qui ne savent pas qu'on est juste 8 à avoir travaillé ça, qui ne savent pas qu'on est un petit studio indie, t'sais, qui a travaillé, comme qui a sué sang et eau, tout ça. Puis qui voit Square Enix Collective, puis qui se disent... C'est pas Fire Emblem, ça?
Non,
c'est... Le Fire Emblem, c'est même pas...
Non, mais tu comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire.
C'est pas Final Fantasy Tactics ou des choses comme ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que cette comparaison-là avec les jeux de notre enfance, c'est quelque chose qui est... T'sais, qui se négocie différemment en fonction des gamers. T'sais, tantôt, on parlait du balancing, puis du niveau de difficulté. Puis toi, tu disais, moi, j'aime ça grinder, c'est cool, t'sais, c'est le fun. Puis il y a du monde qui sont comme... Et moi, je suis pas habituée à ce genre d'affaires-là. Puis c'est fou à quel point, t'sais, nous, on s'attendait vraiment à une homogénéité. T'sais, toi, t'es vraiment le gamer à qui qu'on pensait quand on a fait ce jeu-là.
Ça paraît aussi, t'sais, vous voyez l'enthousiasme quand je joue à ce jeu-là. T'sais, je le fais pas, là, j'aime ça.
Puis là, on se rend compte que ben, cette niche-là, en fait, t'sais, c'est un diagramme de Venn, puis qu'il y a plein de sections, puis qu'il y a plein de
Il y a plein de bébites différentes qui vont avoir des commentaires différents, plein de gamers qui ont des exigences différentes. Tu peux pas plaire à tout le monde et à ta mère en même temps.
Non, c'est ça. Mais ça nous fait super plaisir quand on entend justement du monde, puis on se dit « Yes, on l'a eu, c'est ça qu'on voulait. »
Mais c'est parce qu'on est tellement habitué de nos jours que quand on commence un jeu, puis on se dit « Ah, il est supposé être parfait tout de suite au départ, il n'y aura pas de mise à jour, tout est beau, il est parfait. » Mais ce jeu-là, j'ai pas eu de bug à date. Si vous parlez de mise à jour, OK, moi je me dis « À date, je n'ai pas eu de besoin. » Puis ce qu'on appelle le « learning curve », le temps d'apprentissage en français pour ce jeu-là, est quand même assez rapide, mais en même temps compliqué. Tu sais, je me souviens, c'est arrivé... Puis un coup qu'on choisit le moment final dans ce jeu-là pour ce qu'on fait quand des mouvements, pour exprimer un peu aux gens qui nous écoutent, c'est quand on décide de rouler les dés pour le sort. Si on a choisi le sort, on roule les dés, on peut pas retourner en arrière.
Okay,
mais je peux bouger mon personnage, je dis « Oh non, je veux pas aller là, finalement, j'ai aucune attaque qui va fonctionner, tu peux reculer en arrière puis bouger différemment. » Mais moi, le nombre de fois que j'ai fait une attaque sans réaliser que je touchais un de mes coéquipiers en même temps avec cette attaque-là, j'ai fait « C'est là, j'ai reculé, je dis « Ah! » Leçon, tu sais, c'est comme, je prends ça comme une leçon de vie, puis je continue. Mais je sais qu'il y en a d'autres qui vont faire, mais là, c'est niaiseux, il aurait dû me le dire, puis tu sais.
Il n'y a pas un mollegun là-dedans.
C'est ça, il n'y a pas, tu dis pas genre, OK, je vais sauvegarder, je suis avant de rouler les dés si j'aime pas mon. Non. Puis ça, je suis content que vous n'ayez pas fait ça, like, save your game just before you roll your dice or something. I'm glad that if you die within the level, you restart the level. So, besides the levels when there's like two prongs attack, that, no thank you. Like, there's a level in the sewers there with, like, the cult.
Mm-hmm.
It took me, like, at least an hour to get through that one.
But what a pleasure you had, I'm sure.
Yeah, at the end maybe, but not at the start.
Mais c'est correct aussi qu'il y ait des gens, tu sais, qui ont différentes attentes. Puis ça a été aussi, c'est ça, un apprentissage, tu sais, de dire, tu sais, comme tu dis, il n'y a jamais un jeu qui est parfait. Oui, nous, ça a été quand même une fierté qu'on a eue. Puis tu sais, Jason, il parlait de notre lead programmer tantôt, qui est un gars avec énormément d'expérience puis qui a été... extrêmement tight, là, tu sais, avec une politique no bug depuis le début. Puis oui, le jeu, il est sorti, puis il y a presque.
Non, je l'ai pas vu,
peu
moi.
De bugs.
Est-ce que vous avez mis beaucoup de temps à le polir, le jeu, ou si ça a été compliqué? Est-ce que vous avez assez de temps pour le polir?
Beaucoup moins qu'on aurait voulu, comme d'habitude.
C'est toujours ça.
C'est toujours le cas. Mais, tu sais, on a des gens qui étaient d'expérience sur l'équipe, qui avaient des standards quand même assez élevés. Tu sais, on a réussi à. On a fait quand même un bon polish en peu de temps. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a toujours cette phase-là qui est après launch où, tu sais, on ajoute des features en fonction. Tu sais, nous, il y a des features qu'on se dit, bah, tu sais, c'est pas essentiel. T'sais, comme là, on a ajouté un fast-forward dans le dernier patch sur Steam. Là, c'est pas encore sur PS4. On évalue les possibilités de patcher PS4 aussi. Mais le fast-forward, quand l'ennemi est en train de jouer, là, mais, que tu peux appuyer pour que ça aille un petit peu plus vite. Au début, on était comme, bon, il n'y a pas ça, mais c'est pas si grave. Les gens, ils voulaient vraiment ça. Cette affaire-là. Puis c'est important d'entendre ça aussi, puis de dire, ben OK, ça nous a pas coûté tant que ça de l'ajouter, ce feature-là, puis ça a vraiment amélioré l'expérience de jeu de plusieurs
Surtout
personnes.
Surtout si on grind, ça va plus vite. Si on décide de dire, j'ai juste 1 heure pour jouer, j'avancerai pas d'émission, je vais juste grinder pendant 1 heure.
C'est ça. Fait que c'est correct aussi là, que ça vienne puis qu'on ait cette phase-là après pour dire, OK, avoir un feedback vraiment massif. Parce que on l'a playtesté le jeu avant,
ouais.
Mais il n'y a rien comme le playtesting des milliers de joueurs qui viennent.
À date, est-ce que vous avez des chiffres de vente? Est-ce qu'il y en a qui sont rentrés 10 jours plus tard? Est-ce que vous êtes satisfait?
Mais je suis pas sûr. Je sais pas si on peut en parler.
OK, pas trop.
Talk about our sales number? I don't think we...
OK, is it good? Are you guys happy with the sales number?
It's pretty good.
It's very good. That's what we want to hear. That's what we want to hear. Donc, les chiffres de vente sont excellents, dit-on, mais pour des raisons contractuelles, ils n'ont pas le droit de nous dire exactement combien. More than the Kickstarter? Less than the Kickstarter?
We actually don't know yet. We don't have access to that.
On a les chiffres du nombre de personnes qui ont acheté le jeu, mais pas, on pourrait faire des maths. Là.
Non. C'est ça. So it's going well. You're happy with your game.
Yeah.
Okay, I'm going to ask you a tough question, though.
All right.
Okay, is your game finished?
No, right.
Est-ce que son jeu est terminé?
Non. C'est pas terminé. Right now, we're working on our patch 1.02.
Did you launch too soon?
I don't think so, no. Honestly, right. It just that... Like, I mean, there were certain things that people wanted, and we didn't know how important they were. But once it released, and then like, oh, okay, this certain thing is actually people really wanted. We didn't know that at all. We just didn't expect it. No one really talked about it during the Kickstarter alpha and beta and playtests and all that.
And then, boom, it appears.
Yeah, and we actually stepped on it super fast. We had the game released on Tuesday, and then we released an update on Friday.
Wow.
with like a big feature that people wanted. And people were actually very happy about that. Like, oh, wow, that was super quick. Like the devs responded like super fast.
And that's a sign of respect for people that gave you the money. You know, you guys are listening to the comments and you're not just listening, you're acting on them and you're giving them what they want. They want chocolate, give them chocolate, you know?
And like me personally, the way I see things is that they bought a game for, you know, like 60, 70, 20, whichever, without really knowing about it. And so they still put their trust
in you,
that like, hey, you will give me something that I will find entertaining and that I will enjoy for the money that I'm giving you. And like that money could go to so many other things, but they, they chose to
give it to the company.
And so like and so that's like a very important thing, and that you can't take that for granted, and you can't release a game and then like done. What next?
You know, I've seen that.
I've seen
that many times. You've seen that too.
I've seen that many times as well.
Donc, le grand respect de la communauté, des gens qui ont acheté le jeu, qui ont pu prendre leur argent pour aller ailleurs, ils ont fait confiance. Les gens qui achètent ce jeu-là sans trop connaître la compagnie, qui ont mis quand même... Ils ont mis 600 000, non, 200 000 dans le Kickstarter.
250 000.
C'est quand même des gens qui ont fait confiance à une compagnie qu'ils ne connaissaient pas, qui avait des promesses. La compagnie a livré, puis à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait des features qui manquaient, qui étaient demandées par justement la communauté. Bang, ils ont implémenté. Ça a pris deux, trois jours. Bang, ça a été fait. So you guys are very proactive.
Yeah, I mean, we're definitely trying to be. Yeah.
That's cool.
Do you have another game now in mind for the same style of game, or do you have another love story of your childhood that you would like to see that you don't see enough now in the community?
In terms of like Children of Zodiacs, it's we have to see how well it does.
Yeah.
Whether people want it enough, whether they care.
Like a DLC or sequel or so on.
Yeah, and this is it's right now. It's just way too early.
Yeah, it's just it just launched. Ça fait 10 jours.
Non, oui,
ça fait 10 jours.
Yeah, 10 days.
Est-ce que tu retournerais travailler dans une grande compagnie? Would you go back working for a big company like UB or?
I've thought about this actually. Yeah. I mean, like, you know, when your mind starts to wander, when you want a break from work, you think about a whole bunch of different things.
Yeah.
And maybe, but not in the same capacity.
I see.
I would not want to be a like another grunt in the trenches.
You'd like
so
to
speak.
Do your game. I mean, a game. Be in charge of a game.
That's it. Like, I really enjoy like mentoring people. I really enjoy guiding people to realize the game that they want to make. So I'd like to maybe do something in that type of support capacity for someone else, of like being a kind of like a producer,
yeah,
but an external producer to a team of you know what? I'm going to put my experience to make sure that what you want to do is going to be the greatest thing and you are going to be so proud of it.
Yeah.
So there's that. And then alternatively, I'd probably want to, like, if I had to go back into production mm-hmm. itself, I'd want to go for another, like, indie company.
Ah, that's cool. Je me demandais s'il retournerait travailler éventuellement si l'occasion se présentait dans une grande compagnie, un grand fabricant de jeux. Il dit peut-être. Si j'étais j'étais en charge d'une équipe ou encore comme un consultant extérieur pour aider à maximiser les ressources.
Il ne voudrait pas être un simple soldat, là, qui est un yes man, genre c'est ça que tu fais aujourd'hui, c'est ça que tu fais demain. Ça. Il faudrait qu'il y ait un pouvoir de décisionnel aussi.
Exactement. Fait que, ben, il avoue a bien aimé travailler pour sa petite compagnie et il trippe pas mal aussi sur le domaine indie parce que à quelque part, when you're indie, you do what you want, you do it when you want it, with the money you have also. This can be difficult. Yeah. This can be difficult, but this is quite a challenge.
It is, and kind of the bigger challenge is, at least with the place that we're at, that you don't really get to do what you want.
No,
like not so far.
Okay.
You do have a lot of ownership and involvement,
yeah,
and it is what you want to do. But what I've learned about, especially in terms of being like running the studio, is that I have a responsibility to my own creative vision and et cetera, and to the gamers, but also to the team,
the crew. Yeah.
I mean, like. I need to make sure that, and I want to have it so that, you know, people enjoy working there. That is not like, is it going to be a perfect experience? No. Can I try to make it as perfect as it can be?
Yeah,
I can try, and I want to. And you know, that sometimes what you want and what will be best for the company and the team, sometimes they conflict. And so it's important to be mature and responsible about the choices you make, and like that know that you know, sometimes you need to just give some things up in order for you to gain in other ways.
Harmony.
Harmony.
Exactly. Ouais, harmony.
Ebony and ivory.
Oui, c'est ça, exactement. Je me demandais si c'était facile. C'est le fun quand tu es un studio, tu fais ce que tu veux. Ils disent, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut. On a des responsabilités non seulement auprès des gens qui achètent nos jeux, mais aussi auprès de l'équipe, des gens qui travaillent là. Donc, c'est important de faire des concessions parfois, mais d'arriver à avoir un consensus ou des fois de donner des trucs pour que le consensus se fasse pour éventuellement aller chercher d'autres possibilités de travail ou d'aller chercher davantage chez les gens qui nous font confiance, avec qui on travaille. Pas évident. Puis ça, ton expérience là-dedans, ça a été comment, si tu avais à résumer ça rapidement?
Moi, en fait, ça fait pas si longtemps.
Juste une seconde, je vais partir de la climatise. On entend du bruit un peu parce qu'on est en train de mourir.
OK, je suis pas tout seul, là, right?
OK, you're going to have to bring your microphone closer to your mouth. Just a bit, yeah. Alors donc, oui.
Oui.
Ben moi, ça fait pas si longtemps que ça, en fait, que je travaille pour Cardboard Utopia. Ça fait un petit peu plus d'un an. Puis mm-hmm. moi, c'était un peu une réorientation de carrière. Là. Je vous ferai pas tout le détail de ça.
On va aller voir ton LinkedIn.
Non, c'est ça. Mais ça a été super intéressant. Moi, en fait, c'est drôle parce que je viens des milieux institutionnels. Tu sais, j'ai travaillé dans des écoles, j'ai travaillé dans des hôpitaux.
OK.
Puis ce que Jason disait, puis ce dont on parlait, tu sais, dans la petite équipe, là,
ouais.
ça, pour moi, ça a été quelque chose, tu sais, au niveau professionnel qui a été merveilleux. Là, le fait qu'on est une petite équipe, qu'on est comme, tu sais, que tu as besoin de parler à quelqu'un. Là,
et pas sur épaule, là.
Comme de bord, il est là. Là.
Oh,
c'est
oui,
ça.
C'est ça. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Il y a des côtés qui sont difficiles au fait d'avoir la production dans les mains puis de l'amener au bout puis de travailler justement sur le marketing, ces affaires-là. Mais il y a quelque chose de super aussi, justement, d'être comme ici, par exemple, ouais. aujourd'hui, puis de pouvoir parler du projet sur lequel on travaille. Tout ça, puis ça, c'est vraiment le fun. Ouais.
Mais Yann, toi qui en as vu beaucoup de ce genre de jeu-là,
ouais.
tu le placerais où dans ton palmarès toi, là, par rapport au jeu que tu as joué?
Mais j'ai pas terminé
ouais, mais le jeu. Expérience mais
de mon expérience, moi, il serait facilement dans les top 10 pour la simple raison que il n'y en a plus de jeux comme ça. Il n'y en a plus de jeux comme ça de qualité. Puis je suis content de voir que I know it's your decision to leave like a comfortable job at Ubisoft to start and do something you really like, but je suis content de voir que il y a toujours le débat, jeu vidéo, c'est-tu de l'art, et ainsi de suite. Quand je vois quelqu'un qui quitte son travail, qui passe sa compagnie pour faire quelque chose, pour sortir un jeu que lui-même se dit « il n'y en a pas sur le marché, je ne suis pas capable d'en avoir, je vais le faire moi-même pour les fans de ce style-là », j'ai juste du respect pour ça, parce que je me dis pas tout le monde qui ferait ça, qui prendrait cette chance-là de se lancer comme ça, puis dire « je vais faire quelque chose, je vais livrer, moi, le jeu que je veux vraiment jouer ». Puis je sais que c'est pas un jeu nécessairement que tout le monde peut aimer ou qui vont aimer le style, mais moi, je me dis, essayez-le. Même si vous n'avez jamais joué à un style de ce jeu-là, vous allez peut-être vous surprendre à aimer ça.
Il n'est pas cher, en plus.
Il n'est pas cher, c'est 20$, là, je veux dire. Vous attendez une vente, des fois, là, sur PlayStation Store, Xbox One, je veux dire, à 20$, on ne peut pas se tromper, puis vous n'avez plus votre argent, je peux vous le dire tout de suite. Là.
Bon, quelqu'un qui est un néophyte, qui n'a jamais joué à ce jeu-là, Yann, est-ce qu'il peut rentrer là-dedans facilement?
Facilement, puis... avec le tutoriel,
ah,
oui.
Ouais.
Oh, ouais.
Facilement,
puis
sans problème.
Aller, vous m'envoyez un message, puis moi, je vais vous aider.
Vas-tu faire des playtests de ça,
je vais faire des playtests, c'est sûr.
Alors, jetez un coup d'œil là-dessus, mesdames, messieurs. C'est un jeu qui est disponible, ça fait une dizaine de jours. Et c'est Children, non pas of the,
mais c'est
of Zodiacs. Hein, voilà.
Zodiac. J'aimerais ça que tu parles de mon Kickstarter.
On va parler du Kickstarter, c'est sûr.
Ouais.
On va en parler certains, mon vieux. Il y a des images donc du jeu que vous pouvez vous procurer, je vous le rappelle encore une fois. Fait entièrement à Montréal par une équipe de Montréal. Et je vous invite à jeter un coup d'œil. C'est Cardboard Utopia, la compagnie. Ça vous tente de savoir davantage. Dernière petite question, les boys et les girls. faites-vous partie de l'Alliance des Jeux du Québec? Des Jeux indépendants?
La Guilde,
oui.
Oui.
Ah, très cool.
On est un des studios fondateurs.
Ah, c'est nice, ça.
Ben, en fait...
Parmi.
Faut comprendre ce que ça veut dire, là, mais
ouais.
oui, c'est si on était dans les premiers.
Okay. très, très cool.
Embarqué.
C'est bon, ça. De quel Kickstarter tu veux qu'on parle, mon
Yann? Je vais parler de Dead ouais. Matter, qui est un. Pour ceux qui aiment ça, les jeux de zombies qui sont pas tannés.
Moi, j'ai vu ça tantôt, là, puis je trippais là-dessus.
Ouais, moi aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup des jeux de zombies, que je trouve qu'il manque, c'est un peu dans le style de State of Decay.
Ouais.
Pas juste rentrer avec une chaîne de ça pour commencer à tirer des zombies, mais. Base management.
Ouais.
Ça, j'aime ça dans un univers. T'sais, pour moi, c'est comme un mix du jeu parfait quand j'étais jeune de Age of Empires mixé avec des zombies. Là. Tu te fais des murs, tu te fais des tours. Un peu ce qu'ils font un peu avec Fortnite. Là. Ça, j'ai pas trop d'accord avec le concept que ça va être un free-to-play en 2018,
non,
mais là, tu peux
non,
payer pour
non,
jouer tout de suite.
Non.
Mais en tout cas, on va voir. Peut-être que ça va être juste du positif quand nous autres, on va commencer à jouer à free-to-play. Mais as-tu la petite vidéo de Dead Matter?
Check
ça, c'est une équipe de Alberta. Canadienne. Puis le jeu se passe dans la province de l'Alberta. Ça fait que ça va être 400 km par 400 km de gros. Et là, on va pouvoir rentrer dans des maisons, fortifier nos maisons. Ça va être tout généré. Ça va être tout, le produit va tout être... Tout ce qu'on voit, ça va être random. C'est qu'on va pouvoir donner de la rejouabilité.
Première personne ou...
C'est pas clair
c'est pas
à date,
hein?
Mais ce qu'on peut voir, ça va être pas mal à la première personne. Là. Écoutez, on s'entend, là, c'est pas Battlefield, c'est pas Call of Duty, mais on s'entend que c'est un studio indie d'Alberta.
Ça a l'air cool, par exemple.
Et juste le concept de rentrer dans des maisons, prendre possession des maisons, c'est sûr que c'est de plus en plus populaire. Je regarde The Forest,
ah ouais.
Je regarde Darkwood, les Survival.
J'aime
moi, j'adore The Forest, j'adore j'adore là, ça. J'ai rarement eu la chienne que de jouer dans le jeu de Forest. Là, ouais. Quand tu rentres des cavernes, tu es là, I'm gonna go back outside. T'sais, genre, je sors dehors, je suis pas sûr. Mais là, on va pouvoir dans le bois. Là, c'est sûr que c'est pas clair à 100%. Est-ce qu'il va y avoir du multijoueur? Est-ce qu'on va pouvoir se tirer dessus? Je veux dire, ça n'a pas l'air comme Rust. Là. Ça a l'air vraiment plus. Et ils se sont dit que tout ce qu'ils vont donner comme matériaux pour créer des maps pour le modding community qu'on appelle va être disponible aussi au lancement. That's ça, c'est smart. Parfait.
Ça, c'est brillant, ça, parce que tu gardes ton jeu en vie plus longtemps. Puis si tu as le goût de faire une map de Montréal, tu l'as fait.
C'est
tu
ça, tu la mets en ligne.
Ah ouais, yeah, c'est trippant.
Là, ils ont parti leur Kickstarter. Il reste, je pense, 20 jours au Kickstarter. Ils demandent 60 000, soit ils sont déjà rendus à 144 000 Canadiens.
Ben cool.
C'est une équipe d'Alberta. C'est que vous allez voir la vidéo au complet. Ils sont à Calgary. Je me dis même que peut-être on pourrait peut-être un moment donné les inviter, parler au téléphone avec nous autres, ainsi de suite. Tu vas pouvoir mettre des génératrices, défendre ta maison. Mais là, ce que ça va être, tu vas pouvoir. Puis moi, c'est ça, ce qui, comme je dis, c'est une des raisons qui m'a vraiment attiré au jeu State of Decay. C'était le base building, c'est communauté. Ça. Moi, j'adore ça. Là.
Grandir ton village.
C'est
ça,
tu sais, défendre, avoir des zombies, défendre, pas juste quand on voit le drapeau canadien. C'est super cool. je veux dire, dans un sens, moi, c'est ce qui m'a attiré à ce jeu-là, qui le sépare un peu des autres jeux, je te dirais, de survival zombie. C'est le fait que tu peux vraiment gérer ta base comme tu veux. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont s'en aller avec ça. Mais celui-là, il passera pas sur mon radar. Il y a des fortes chances que j'aille contribuer d'ici la fin là, du Kickstarter.
Ben, on va faire l'affaire avec toi. On va contribuer avec toi, le grain.
Bon, parfait. Ben, on va pouvoir jouer ensemble.
Ils sont où, de où exactement? Alberta?
Calgary.
Calgary. OK, très, très cool. Allez faire un tour sur leur Kickstarter. Le jeu s'appelle Dead Matter. Et bien sûr, il y a toutes sortes de trucs. Multijoueur, Yann.
Multijoueur,
et
cool.
Voilà, et voilà, il y a différents personnages qui sont là. On va pouvoir personnaliser notre expérience, nos personnages, notre équipement. Le monde est assez vaste, nous dit-il. C'est 400 par 400, tu dis, avec des kilomètres environ. Intéressant. Il va sûrement en Calgary, il y a des montagnes. Oui,
ça, on va pouvoir aller dans le bois, exemple. Si, mettons, tu dis, oh non, ils veulent vraiment simuler une attaque de zombies puis voir, toi, tu ferais quoi? Tu sais, comme moi, je sais tout de suite. La première chose que je fais, je m'en vais dans un Costco, puis je barricade tout. Parce que je me dis, au Costco, il y a des matelas, il y a des sofas, il y a de la bouffe, il y a des génératrices, il y a tout. Il y a une station de gaz. Tu prends les chars, tu mets ça à l'entour du Costco, puis d'après moi, on est bon pour un bout.
Là, tu viens de dire. Hein?
J'ai mon truc. Mais juste pour qu'on soit sûr, ça va être moi le roi du Costco. Vous allez rentrer, mais c'est moi le chef. C'est moi qui prends des décisions. Je ça de même tout de suite.
King Costco.
King Costco s'il y a une zombie apocalypse.
Aïe, aïe, aïe. Ben, j'embarque avec toi, j'ai de la place. Là.
Puis on prend cela de Candiac parce qu'il y a un Renault dépôt proche, un IGA. Puis un Walmart. Ben, ça t'imagines, paraît... on va tout avoir. Là, on va chez Renault Dépôt pour les haches, les 2x4.
Ouais, mais il y a l'hôpital juste ici, pas loin. Là, fait que...
Ouais, mais Walmart, il y a une pharmacie.
Ouais, OK.
Zombie Apocalypse, les médicaments, ça va vouloir cher.
Il y a un McDo aussi.
Ouais, il y a un McDo proche dans le Walmart, imagine.
Écoute, il y a du stock. T'as-tu vu le monsieur le plus riche au monde? C'est qui?
Non, je sais pas.
Je vais te montrer ça. C'est monsieur Amazon.
Pour vrai?
Monsieur Amazon qui a déclaré aujourd'hui, enfin, c'est pas lui, c'est les fiscalistes.
Ouais, c'est rare que tu te déclares l'homme le plus riche au monde. Peut-être Trump le ferait.
Ouais, Trump va le faire. Lui, il vaut officiellement. Attends un petit peu, comment il vaut exactement? Il a commencé en 98.
C'est pas avec... Zentos ou Zentos son nom?
Lui, il s'appelle Bezos. Jeff Bezos, OK?
Je t'approche.
En 98, sa fortune était 1,6 milliard. OK? En 2012, ça a monté un petit peu, 18,4 milliards.
Tabarnouche.
Et là, aujourd'hui, bien, monsieur est plus riche que monsieur Bill Gates. Il vaut, en fait, il dépasse Bill Gates de 800 millions. Il vaut 90 milliards de dollars. 90 billions dollars, this guy is worth. C'est fourette. Fourette. Et il est en train de tuer tous les petits commerces.
Ouais. Mais aux États-Unis, tu peux te faire livrer du homard, hein?
Du homard.
Tu check ça sur Amazon.com, là, you can order lobsters.
Wow. Et il doit être frais.
Not sure where he comes from, but you can order lobster.
D'autre part, rapidement, les gens ont commencé à faire plein de spéculations concernant le prochain James Bond.
Oui.
Ah, là,
mais on a la date de sortie, mais on ne sait pas c'est qui l'acteur, puis on ne sait pas c'est qui le réalisateur.
James Bond will return, November 8, 2019. Là, tout le monde dit, ouais, ben si c'était pas, comment il s'appelle celui qui le faisait, là?
Daniel Craig.
Daniel Craig, il l'aurait déjà teasé, il aurait dit, il y a un nouvel acteur qui s'en vient.
Oui, non, il y a des petites rumeurs.
Il y a des petites rumeurs.
Qu'il
reviendrait. Oui, c'est ça. Ça se peut qu'il revienne, mais ce n'est pas confirmé officiellement par les fameux studios en question. À part ça, mon Yann, Sea of Thieves, parle-moi de ça.
Oui, Sea of Thieves, en fin de semaine. Moi, ce jeu-là, il avait passé, ça m'avait un petit ping sur mon radar il y a deux ans. Ouais. Mais au E3 de cette année, le gameplay là, que je voyais le monde s'amuser avec le requin, aller chercher des. Tu sais, le capitaine qui donne des commandes. T'sais, aussitôt que je vois quelqu'un qui donne des commandes à un équipage,
ça t'intéresse.
Ça m'intéresse. Et puis je m'imagine l'admiral de ma fleet. Tout. Non, non, mais ça pour dire que ça a l'air super cool. Mais en fin de semaine, si comme moi, quand après le E3, vous êtes inscrit sur leur site pour avoir leur newsletter et ainsi de suite, il y en a qui ont été choisis pour participer au Technical Alpha 3. Il va en avoir 3 vendredi, samedi, dimanche. Regardez dans vos spams, dans vos courriels, parce que c'est poche. Parce que des fois, quand on s'abonne à des newsletters, automatiquement, notre courriel, ça s'en va dans le spam automatique parce que c'est du mass email qu'on appelle. Moi, j'étais chanceux. La première que j'ai reçue avait été dans mon spam, puis je l'ai pré-approuvé. Et là, j'ai reçu un courriel comme quoi que j'ai été accepté pour le Technical Alpha sur la Xbox One. Il faut avoir le Insider Hub. Il faut aller là. Puis là, tu vois, il était 4 gigs. Je l'ai téléchargé tout à l'heure. Ça commence demain. J'ai failli annuler mon voyage à Ottawa pour ça.
Mais
je l'ai pas fait. Je taquine. Je vais jouer dimanche quand je vais revenir. Ça va être 3 jours à des heures spécifiques. Mais j'ai hâte de l'essayer parce que vraiment, les vidéos de gameplay que j'ai vues au E3, puis encore une fois, juste cool de te promener avec un équipage. Puis j'imagine déjà le monde qui vont chicaner là, sur le même bateau, puis avoir un bateau qui tourne en rond de même parce que personne s'écoute, ou tu vois des requins. T'sais, ça a l'air cool. J'ai hâte d'essayer ce jeu-là, Sea of Thieves. Ça va être sur PC puis Xbox One. Mais le Technical Alpha, il est seulement sur Xbox One.
Mais t'as pas joué au jeu de Star Trek en VR? Ça, j'aimerais ça jouer avec toi.
Ouais, le Bridge Crew, j'ai pas essayé, il faut que je l'essaye. Oh, on fera un playtest de ça pendant nos vacances.
Oui, ça serait très très drôle de devoir chialer après vous autres. D'autre part. D'autre part, ça vous tente de jouer à Diablo, il est gratuit ce week-end sur Xbox. Si vous êtes bien sûr membre du Xbox Gold, Xbox Live Gold. Vous pouvez jouer à partir du 27, donc c'est de maintenant jusqu'au 31. Vous pouvez jouer à l'extension qui s'appelle, j'ai oublié le nom de l'extension.
Souls, quelque chose, c'est ça? Reaper of Souls?
C'est ça? Attends un petit peu, je vais te le dire.
C'est même, là?
Ouais, le Reaper of Souls Ultimate Evil Edition. Donc, tu peux jouer à ça sans problème, t'amuser, bien
je
sûr.
Je me reprends pour le Children of these Old Arts.
Et bien sûr, il faut être membre du Xbox Live Gold pour avoir le bénéfice de tout ça. Et rapidement, on va finir le show là-dessus. Moi, je sais que tu aimes beaucoup les... Attends, je l'ai-tu? Attends un peu. Ah, je l'ai... Oui, tu sais, les gens de Lego, moi, je les trouve brillants parce que c'est des gens qui ont réussi à faire des films qui font la promotion de leur jeu. Et le bebel, on les retrouve dans les films animés, ils prennent vie, tu as le goût des avoir, tu sais.
Puis depuis que les jeux de Marvel sont associés avec eux autres, on sait toujours qui va avoir dans les films de Marvel parce que les sets de Lego sortent. Un mois avant la sortie du jeu. Je me souviens, Civil War, ils ont sorti le... Airport Battle Scene, puis il y avait Giant Man. C'est de même qu'on a appris que Giant Man était prêt dans Civil War juste à cause des Lego.
Ben écoute, ils sont partout. Ils ont pris l'action, ça a fait tchoum! Et une compagnie qui vivotait à un moment donné, mais là, c'est rendu que ça roule super bien. Et là, ils ont fait ce film qui a été présenté au Comic-Con, où ils font la conception. Ça a pris, je ne me trompe pas, ça a pris 900 heures faire ce truc-là. Ils l'accélèrent et ils font, bien sûr, un personnage très connu avec une cape, un marteau.
Mario?
Non, pas tout à fait.
Donc, Thor?
Tu vois, moi, je pensais que c'était vraiment tous des morceaux qui existaient vraiment. Non, ils les fabriquent au fur et à mesure qu'ils en ont besoin.
Mais ça, là, c'est mauvais, ces affaires-là, parce que mon gars, il regarde ses vidéos sur YouTube, puis quand chaque fois, j'ai dit, tu veux faire quoi quand t'es grand? Je vais travailler pour Lego.
Ah, ben peut-être.
C'est son rêve, il veut être ingénieur chez Lego.
Ben écoute, c'est vraiment fantastique de la façon qu'ils font ça. Puis,
ils mettent de la colle en plus.
Ah oui, ça colle.
Tu saches vraiment si tu t'en. Ah, mais c'est un ordinateur qui leur dit quoi faire, là. Je pensais que c'est Thor, ça.
Ah ouais, c'est comment ça, c'est un ordinateur,
il dit
quoi faire?
Mais check en arrière, il y a comme un ordinateur qui roule, qui dit quoi mettre le stock, là.
Bien ça, il est cool, pareil, là.
Ah ouais.
Hein? Boum, c'est réglé. Et voilà.
Je veux ça chez nous.
Tu veux ça chez vous, on va te le donner pour Noël, mon gars.
OK, t'es fin.
Hein? Je fais de demain. Moi, je donne quand j'en ai plus.
Mais je ne veux pas en morceaux, là. Je t'imagine, tu vas me donner ça. Voici les 250 000 morceaux qu'il te faut pour Thor. Have fun.
Ben oui.
C'est ton style.
Joyeux Noël.
Mais quand on va à Orlando, Lego Store, à Disney, c'est écœurant ce qu'il y a dehors. Ouais, il y a un dragon dans l'eau. Il y a un... En tout cas, c'est cool.
J'ai une doléance cette semaine de TQ qui veut aller voir Star Wars dans les deux parcs.
Nice.
Dans les deux parcs. Pas un, les deux. Alors, on peut aller de place une journée puis aller à l'autre bord. C'est un petit peu loin.
Ouais.
On va jaser. Hey, thank you very much for coming.
Hey, merci beaucoup de nous avoir invités.
Jason, pleasure. Ça fait plaisir. Puis quand vous avez des trucs, tu ne te gênes pas.
Avec plaisir.
Merci, André. Jason, you're always welcome.
Merci.
Keep us posted on your games. And the
See,
best
you guys
of luck.
Are welcome, but you didn't say that to me. Like.
Just a second. I was getting to you.
Yeah, yeah, eventually.
Merci, Yann. Okay. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde sur le chat de Twitch. On va revenir sur Facebook prochainement. Il y a un ordinateur qui est mort. On va régler ça en fin de semaine. Et puis, en retour de vacances, on va diffuser partout, comme le petit Larousse. On va semer à tout vent. Ici Denis Talbot, passez un excellent temps de vacances, de repos, si c'est le temps. Moi, je tombe en vacances ce soir et on revient dans 2 semaines. Attention à vous autres. Et portez-vous bien. Soyez prudents. Hein? Ayez du fun. On veut vous revoir très, très prochainement. Et surveillez, il va sûrement avoir des playtests, mais parlez-en pas à ma blonde. OK, bye!
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Publicité@radiotalbot.tv.